M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Cette semaine, un épisode un peu particulier à l'occasion de la première édition du festival Le Goût de M qui se déroulait les 23 et 24 mars à Paris, à l'école Dupéré, et où se tenaient pendant deux jours des ateliers, des rencontres, un concert, un café et même un cinéma imaginé par Rebecca Zlotowski. On a en effet eu envie, pour célébrer cet événement, d'enregistrer le podcast en live et en public pendant le festival. Pour l'occasion, on a choisi un des acteurs les plus doués de sa génération, Antoine Reinhartz. Il a déjà reçu un César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du président d'Act Up dans le très beau 120 battements par minute de Robin Campillo en 2018. On l'a ensuite vu en lieutenant, un peu timide, ayant du mal à occuper pleinement sa fonction dans Roubaix, Ville-Lumière de Desplechin, en prof, devant faire face au désir naissant d'un très jeune élève dans Petite Nature de Samuel Théis. Et bien sûr, cette année, en avocat général, sûr de son fait et voulant à tout prix enfoncer l'accusé dans « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. On le sait solaire, drôle, à l'aise avec le maniement de la langue, accro au sucre aussi. On lui a donné rendez-vous dimanche après-midi, à l'heure du goûter, devant l'école Dupéré. Bonjour Antoine.
Bonjour, bienvenue.
Alors où est-ce qu'on est ici?
Non, pas du tout chez moi.
Non.
Mais à l'école Dupéré.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait à l'école Dupéré?
C'est
le festival du M.
Ça vous nous le dire, ouais.
Alors, on va au premier étage de l'école Dupéré. Donc, pour savoir qu'il y a des événements dans toute l'école. Et nous, on va au premier étage, on va à la bibliothèque.
Ok.
Alors, allons-y. Alors, ça vous ressemble pas du tout ici, en fait.
Alors, c'est un grand espace, c'est haut le plafond, j'adore. Je me sens très, très à l'aise.
Alors, on rentre dans la bibliothèque. Allons-y. Antoine? Alors, elle ressemble à quoi, cette bibliothèque?
Elle ressemble quand même globalement à toutes les bibliothèques de Paris, quand on voit tout ce qui est... vous savez, tous les petits magazines là qui sont sur les trucs où on ouvre pour avoir tous les mois précédents. Très design.
Métallique, beaucoup d'USM partout. Et puis nous, on va aller s'asseoir, Antoine. Allez, venez.
Très chaleureuse.
Chaleureuse.
Ouais. Il fait très chaud.
À tous les sens du terme, même si c'est une chaleur... On s'est assis face à la salle, comble, tout autour de nous des livres, une lumière tamisée. Antoine, un poil séducteur, a commencé à distribuer des bonbons au premier rang. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
La pluie.
La pluie ?
Ouais, la pluie. La joie de la pluie, être chez soi, cocooning, dans une grande maison. En fait, j'avais plein de frères et plus tard une sœur. Du coup, il n'y avait pas de souci de trouver des gens avec qui jouer. Donc, c'était plutôt genre trouver un endroit calme pour bouquiner au chaud chez soi. Enfin, c'est la Lorraine, quoi.
Ouais, vous avez grandi en Lorraine. C'était Nomeny, c'est ça?
Oui.
Un petit village, un millier, un peu moins d'habitants.
Oui, ça dépend 900, des années.
Ouais, ça dépend des années. Ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi?
Ça a évolué au fur et à mesure des années. Moi, mes parents viennent d'un milieu un peu... assez populaire, mais tout va bien, quoi. Et ils ont été vétérinaires, donc au fur et à mesure, on s'est un peu embourgeoisé. Et on avait une grande maison dans le village. Ouais, vraiment une grande maison avec un grand jardin. Pas tout de suite chacun notre chambre, mais au fur et à mesure, on avait... Quand on venait ado, on avait notre chambre solo.
Comment elle ressemblait à quoi, cette maison, à l'intérieur? Elle était meublée comment?
C'était genre des ardoises. Elle était très bien meublée, parce que ma mère est très, très déco, donc très meuble ancien, très... Enfin, très bien meublé, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, du parquet, des meubles anciens, du carrelage, d'une vieille maison. C'est des maisons de maître, je crois, on appelle ça.
Ouais.
Et c'est génial parce qu'on est très très loin les uns des autres. Donc ça peut être le gros dawa à l'étage. Il n'y a aucun souci pour le reste de la famille.
Alors, vos deux parents, vous le disiez, étaient vétérinaires, c'est ça? Et donc, votre père, si vous pensez à lui et à son goût, vous diriez que, enfin, ce que vous en perceviez, en tout cas vous, quand vous étiez petit, qu'est-ce qui était important pour lui? Qu'est-ce qu'il aimait?
La musique, il y avait un truc qui était à la fois pas du tout élitiste. Nous, on avait quelques règles chez nous que j'aimais bien et que Les règles, c'était... déjà, on devait tous faire et un instrument et un sport. C'était une règle. Bon, comme il n'y avait que du foot et du judo dans le village, mon frère cueillait des pâquerettes en jouant au foot et moi, je faisais du judo. J'étais ouais. extrêmement mauvais. Mais une fois, j'ai eu une médaille parce qu'ils se sont trompés dans les numéros. Donc, Et il y avait aussi une règle de... on a le droit de dépenser autant qu'on veut si c'est pour des livres.
Ah oui, en fait, c'est bien ça.
Ouais, c'était génial. Après, il n'y avait pas de magasin dans le village, donc il n'y avait pas de risque immense.
C'était malin.
Mais du coup, il y avait un truc où c'était très... Il y avait beaucoup de livres, beaucoup de musique. On avait un piano, ma mère jouait du piano. Mon père, c'était plus les BD et la musique. Ouais. Il y avait des abonnements où à l'époque, on pouvait acheter des CD moins chers si on les achetait par 4 ou 5 et tout. Donc, je l'aidais à choisir les achats du trimestre et tout. Et ma mère, c'était beaucoup les livres avec elle, le piano... les grosses sorties au cinéma une fois par mois, c'était assez rare parce que c'était loin. Mais du coup, c'était...
C'était quoi le cinéma ?
Le cinéma, c'était le Kinépolis. En fait, ils ont créé un truc où c'était des horaires fixes. Donc, tous les films commençaient en même temps à 20h ou à 22h30. Et du coup, nous, on y allait avec des potes, des familles de potes. On y allait à 25 et chacun se répartissait dans les salles.
Le travail, c'était donc vos deux parents vétérinaires, ils travaillaient ensemble ou
Oui.
C'était important dans leur vie, le travail, ou pas tant que ça, en fait,
je veux dire. On a une valeur travail très très forte, ouais. Un peu dur à déconstruire après, mais bizarrement, moi, ils m'ont jamais manqué alors qu'ils travaillaient jusqu'à 20h tous les soirs, ils travaillaient le samedi, ils étaient de garde le week-end, la nuit. Donc en fait, ils bossaient quand même énormément.
Pendant cet épisode un peu particulier, j'avais demandé à Antoine Reynard de préparer des extraits de films et de chansons importantes pour lui. Et quand on a parlé de musique et qu'on a parlé de son père, il a tout de suite pensé à 1, 2, 3 de Fredericks, Goldman et Jones qu'il avait vu en concert avec ses parents.
Du coup, je suis allé au concert avec eux.
Ah ouais ?
Ouais, c'était génial. Alors, il y a le fameux concert rouge. À l'époque où ils ont fait venir l'armée russe, le cœur de l'armée russe sur scène, qui a été genre... c'était vraiment le mythe dans notre famille, mais nous, on n'y était pas. Et ensuite, on est allé aux autres, qui étaient forcément moins bien, parce qu'il n'y avait pas le cœur de l'armée russe. Après, Jablonka, il a fait un truc sur Goldman qui est... donc, je ne vais pas le paraphraser, c'est beaucoup... Mais il y a vraiment... ça correspond vraiment à la culture. Là, il y a 2 ans, j'ai vu Zazie qui, sur The Voice, disait à un mec « Ah, mais c'est super t'es tunisien, tu chantes Goldman qui est juif. » Et en fait, ça m'a trop saoulé parce que moi, j'ai grandi avec Goldman. J'ai jamais su qu'il était juif. J'étais là, ah bon, trop. Enfin, je m'en fous de le savoir. Ouais, non, pas du tout. Il n'y avait pas d'étiquette et tout. Et en fait, j'aime pas l'idée de devoir savoir d'où on parle pour recevoir. Il y avait vraiment une. Enfin, ça change rien, mais j'aime bien l'idée de recevoir l'œuvre en tant que telle sans rien savoir de d'où la personne parle et d'où la personne nous la transmet. En fait, elle est juste pour nous. Évidemment qu'il va puiser dans des. Et évidemment, quand il écrit Leidenstadt, c'est encore plus fort quand on sait, j'imagine, l'héritage qu'il a reçu.
Comme toi, parler de ça aussi.
Ouais, mais en fait, quelque part, il n'y a pas besoin, en fait, pour recevoir son œuvre. Moi, j'aime bien que les œuvres soient un peu vierges de tout. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de moi, donc désolé.
Quand on a parlé de sa mère, Antoine a immédiatement choisi Marianne Bad de Barbara.
Barbara, c'est un goût que vous avez
aussi ? Je détestais.
Aussi.
Franchement, j'aimais juste l'aigle noir, je trouvais ça vraiment... C'est quand même hyper ampoulé. Enfin, je veux dire, elle m'avait écrit 18 mots incompréhensibles dans la même phrase, c'est presque fait exprès. Et aujourd'hui, je suis bouleversé, enfin, ça me met dans une espèce de petite d'état second. Non, et il y a aussi quelque chose où j'écoutais du coup, j'ai réécouté pas mal de podcasts, et Valérie Lemercier qui disait « on n'évolue pas dans nos goûts ». Moi, c'est vraiment le contraire. Enfin, il y a vraiment un truc où j'ai l'impression qu'on est hyper plastique, aussi dans nos goûts, dans nos pensées. Et c'est presque vertigineux de se dire qu'est-ce qu'on est au final, puisque sur le temps, on est vraiment très, très différent.
Vous avez cette sensation-là ?
Ouais, beaucoup.
On termine un petit peu avec le cadre dans lequel vous avez grandi. Vous aviez quoi ? 6 frères et sœurs ? Vous étiez le cadet ?
J'étais le deuxième, ouais.
Donc deuxième. Vous aviez des goûts en commun avec eux ou pas du tout ?
Non, mon frère, il était très Queen et Beatles. Moi, j'étais Starmania.
Ouais.
Et je le méprisais. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'étais ringard.
Mais vous jouiez beaucoup ensemble, ça c'était...
Oui, après il y a vraiment un truc où je me suis... Moi j'ai construit mes goûts en opposition à mon grand frère, que j'adore, hein, mais
ouais,
vraiment
ouais.
En opposition permanente. Et on jouait beaucoup ensemble, oui, énormément de jeux de société, ça aussi, grosse passion.
Ça s'est resté.
Oui, je trouve que quand on va mal, il y a un truc où c'est le seul truc qui... En fait, ça nous permet d'être actifs et intellectuellement un peu vifs, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Enfin, je trouve que ça maintient en vie.
Ouais, ouais. La politique, c'était important chez vous ou pas? Pour les discussions, pour vos parents
Oui, mais pas partisane. Enfin, une politique, un truc très universaliste, je pense.
Ouais.
Ben, un parcours de... Ils viennent de milieux plutôt populaires et ils montent l'échelle sociale, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ils viennent de milieux où tout va bien. Mais... Et du coup, quelque chose de très... Aussi très... attention à l'autre.
Ouais. La vie de la cité, quoi. La politique au sens...
Non, il y a la politique, y a la vie de la cité. En fait, mes parents étaient les vétérinaires du village, donc en fait, ils étaient très connus par tout le monde, donc il y avait un côté populaire.
C'était Gilles, votre père, vous étiez le fils de Gilles.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, en fait, les deux étaient vétérinaires. Le truc, c'est que mon père, il faisait de la rurale, ma mère de la canine. Et donc,
la canine,
ouais. C'est les chiens, chats. Et la rurale, c'est plus on va dans les fermes, on fait les vaches, les chevaux, okay. etc. Okay. Et donc, il y a un truc où, en fait, lui, il allait boire le café chez tous les gens toute la journée, quoi. D'où la musique aussi, puisque beaucoup de voitures. Mais leur engagement politique était plus... Du coup, il y avait quelque chose de pas du tout élitiste dans l'idée de... il y a vraiment une idée de si c'est bien, ça doit plaire à tout le monde. Et on se la raconte pas, quoi.
Il y avait un plaisir de manger chez vous, dans votre famille? C'était important ou pas du tout?
Ouais, après moi ce que je retiens le plus c'était les soirs où ma mère était débordée et une fois de temps en temps disait bon bah ce soir on se fait un lait. Et là c'était lait, Kellogg's le soir, Nesquik.
Et ça c'était ce que vous préfériez?
Bah bien sûr.
Et vous le faites toujours?
Alors je le fais beaucoup, vraiment énormément. Je le fais tous les soirs.
Avant de dormir? Ouais, c'est un rituel quoi.
J'arrive pas à dormir sinon.
Ah ouais?
Ouais.
D'accord, mais c'est
malsain.
M, le magazine du Monde présente le goût de M.
Là, c'est le moment où habituellement dans ce podcast, on va se balader chez les gens pour découvrir un peu leur intérieur. Là, comme on était dans la bibliothèque de Dupéret, j'avais demandé à Antoine d'apporter des objets qui comptaient pour lui et de nous expliquer d'ailleurs la relation qui le liait aux objets qui l'entourent.
Grosse pression.
Et donc,
on est sur une radio de ma grand-mère.
Qu'est-ce que vous nous avez emmené, Antoine?
Non, en fait, je suis devenu très matérialiste. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période où j'ai énormément étudié, énormément voyagé. J'ai donc déménagé genre 20 fois en 10 ans. Donc en fait, au fur et à mesure, les déménagements, ça devient de plus en plus petit.
Oui.
On réduit. Et à un moment, son appartement, ça devient vraiment juste un hall de gare où on passe rapidos parce qu'en fait, l'important, c'est le travail, c'est la pensée. Et à un moment, quand j'ai été très mal, à un moment après un accident, vraiment, en fait, me réapproprier le lieu dans lequel je vis, récupérer aussi tous des objets de mes grands-parents, de mes grands-mères qui étaient parties, ça a vachement contribué à m'aider. Et du coup, aujourd'hui, je suis hyper, hyper attaché au lieu dans lequel je vis, à avoir des... Donc ça, c'est la radio de ma grand-mère que j'écoute.
Ça vous a structuré d'une façon...
Ouais, ça m'a resolidifié. Beaucoup.
Et alors, donc, ça, c'est la radio de votre grand-mère et elle avait une importance particulière pour elle?
Elle écoutait non-stop parce qu'elle était très seule pendant une dizaine d'années, donc elle écoutait vraiment toute la journée. Et moi, j'étais pas du tout radio pareil avant mon accident parce que j'avais une passion du silence pour travailler. Dans un silence total, j'avais un casque anti-bruit parce que je n'aimais pas pour aller à la bibliothèque, enfin vraiment un peu ultra. Et suite à mon problème aux oreilles, en fait, du coup, je supporte plus le silence. Donc maintenant, je suis en radio permanente.
Est-ce que vous entendez des sons dans le silence?
Tout le temps, ouais. Et du coup, c'est vrai que la radio, du coup, c'est la vie, quoi. Je l'allume le matin, j'ai aussi... ça fait un peu peur. J'ai des petits bruits de pluie dans ma chambre pour dormir, en mode nature
en
découverte.
En mangeant les céréales?
Ouais, bien sûr. Donc là, plus personne ne voudra... Niveau séduction, c'est zéro. Mais...
Faut le dire après, ça.
Mais finalement, les gens apprécient. Il y a quelque chose qui berce.
Si vous pensez à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier, aussi loin que vous en souveniez?
Moi, ce qui m'a marqué, il y a deux choses. Il y a passion pour la connaissance. Enfin, vraiment une idée de... j'aurais pu devenir un techno total, quoi. Tout se résout par la connaissance. Donc, les livres. J'ai une passion pour les bureaux, parce que j'adore l'idée de travailler, même si je travaille beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. Mais
vous aimez cette idée?
Ouais.
Je l'ai trouvé belle, enfin.
Ouais, j'ai 4 bureaux chez moi, j'en ai 2 dans ma cave.
C'est vrai?
Alors que j'ai vraiment un petit appart, mais du coup, j'en ai dans chaque pièce. Ouais.
C'est un espace.
Je sais pas, j'aime bien l'idée de poser, pouvoir travailler, lire, écrire, avoir des feuilles, des papiers, ouais. me projeter, comprendre. Et la deuxième chose sur le goût, en tout cas, c'est abonnement à Studio Magazine en 97, qui est pas...
Vous avez quel âge, vous, en 97?
J'ai 11 ans.
Donc, magazine de cinéma.
Magazine de cinéma, Jean-Pierre Lavoignat. Après, c'est aussi une période, en fait, les années 90. Je regardais là le box-office des années 90. Il y a un truc où peut-être que je suis en train de devenir un peu un vieux con, en mode... Mais il y a aussi un truc où il y avait une audace, un éclectisme dans le ciné. Et le cinéma populaire et cinéphile étaient beaucoup plus mixés. Il y avait des films du milieu. Le box-office, en gros, de 94, par exemple, c'est... Il y a quelques films d'action, True Lies, qui peuvent être assez cool. Mais il y a aussi, genre, Forrest Gump, Philadelphia, Reine Margot. Ça, c'est des énormes ouais. succès de ces années-là. Alors qu'aujourd'hui, le box-office, c'est essentiellement des Avengers, que du film d'action. Donc, il y a un éclectisme qui n'est plus du tout le même. Et que des suites, quoi. Il y a un truc de... une idée économique de on rentabilise jusqu'à ce que ça ne marche plus, qui manque un peu d'audace à mon goût et qui fait qu'il n'y a pas le même truc de Studio Magazine. C'était à la fois très très populaire et en même temps ça allait avec une époque où le cinéma populaire et d'auteur étaient beaucoup plus fluides, ouais. beaucoup plus ouais. mélangés. Ouais.
Et ça a été très important pour vous, justement. Vous lisiez avidement tous les... Vous en écriviez ouais. aussi des critiques
fin... Alors non, je faisais des statistiques pour voir avec qui j'étais le plus proche.
Ah, oui.
Donc j'étais très proche de Lavoignat et Thierry Cliffa. Et il y avait un rapport aussi à l'idée d'adulte. J'avais l'impression de pouvoir communiquer avec les gens adultes et d'être dans leur monde, alors que j'avais que...
En échangeant des idées avec eux.
En échangeant, en fait, comme je disais tout... Ouais, ils disaient un truc, j'étais là, mais non, pas du tout, Winona Ryder, elle jouait là-dedans, ils étaient là, ah bon ? Et j'étais là, bah oui, parce que j'avais lu tous les petits encarts et j'étais à fond. Et il y avait du coup un rapport où... presque d'égalité.
Mais c'était plus du coup cette position finalement d'observation qui vous intéressait, enfin d'analyse, plutôt que d'être ensuite, d'avoir une fascination pour les acteurs ou la mise en scène. C'était quoi qui vous intéressait?
C'est venu un peu en même temps, c'est-à-dire que moi j'avais je faisais des sketchs sur scène, au théâtre, enfin dans
vous
ma classe.
Du théâtre,
ouais. Ouais, ouais, dans ma classe, de CM1, CE2, etc. Et ça c'était assez intuitif en tant qu'acteur. Par contre, le théâtre en tant que spectateur a longtemps été un endroit que j'ai trouvé assez rébarbatif, notamment le théâtre public, aujourd'hui j'adore, mais pendant longtemps je trouvais que c'était vraiment 9 fois sur 10 un gros risque de prise d'otage. Bon, et alors que j'aimais jouer. Et par contre, en termes de cinéma, il y avait très vite une... C'est beaucoup plus facile d'accès, enfin, il y a moins de risques d'ennuis mortels, quoi. Et j'avais un groupe de potes, que des meufs, avec qui on allait... en ville une fois par semaine et là on a commencé à faire des trucs plus genre La vie est belle de Roberto Benigni, Le pianiste, donc tous les films sur la Shoah, donc déjà tu découvres la Shoah, t'es un peu bouleversé, Magdalene Sisters, mais aussi des James Bond et des... Il y a aussi un sentiment de... On était en 6e, 5e, mais on se sentait aussi très responsable de partir à 4.
Ouais.
Voilà, c'était des grands moments, quoi. Des grands...
Et vous y pensiez, enfin, c'était une possibilité pour vous de faire un métier artistique ou en lien avec ces domaines-là ?
Oui, à 10 ans, je crois que j'étais en mode acteur et tout.
Ah ouais, vous vouliez être acteur ?
Ouais, ouais. Voilà,
et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez fait option théâtre ?
Ouais, exactement.
Donc ça, c'est à 15 ans, vous partez au lycée Chopin, vous faites option théâtre. Mm-hmm. Et ensuite, finalement, vous allez faire des études qui vont être un peu différentes, puisque vous allez passer votre bac, puis après, vous faites...
J'ai oublié mon premier vrai goût, en fait, c'était Agatha Christie. Je pense que c'est important de le dire, parce que là, non, c'est pas du tout important, mais je l'ai relu il y a peu de temps. Et en fait, c'est marrant parce que on se rend pas compte, elle a écrit jusque dans les années 70. C'est pareil, j'avais 8 ans, donc j'étais trop fier de lire des trucs d'adultes avec des Mister, Mrs. et tout. Il y a des choses écrites dans les années 70 et on a vraiment l'impression que c'est du 19e. C'est hyper ringard, en vrai. Mais il y a des romans où elle écrit, c'est des espèces d'intrigues sur la guerre froide. Et c'est hyper étonnant de voir ça chez Agatha Christie, parce qu'on s'attend pas du tout à ce genre d'intrigue, alors que c'est que... bourgeoisie du début du 20e, quoi. Voilà, pardon. Donc oui, j'ai fait des études un peu différentes.
Oui, c'est-à-dire que vous avez fait un détour, enfin c'est pas forcément un détour, mais un chemin un peu plus multiple, plus différent. Donc vous commencez en vous disant je vais devenir acteur, et puis finalement, enfin alors, je sais pas ce qui fait que finalement vous faites les DEC.
C'est des représentations, en fait, comme je suis pas dans un milieu culturel, pour nous, dans mon milieu, il y avait une idée de... Mais aussi à l'école, hein, on nous le dit beaucoup, c'est du talent, donc en fait, si ça se fait, ça se fera. Il y avait l'exemple de... Pierre-Xavier de Maison, non. Bref, en tout cas, lui avait fait de la finance, et ensuite arrive, et donc de dire oui, mais en fait, ça peut... Ce qui est, à mon sens, un peu faux, parce que après, moi, j'ai galéré pour revenir au conservatoire et avant les limites d'âge, et il y a une appétence de départ, mais en fait, c'est vraiment une construction
Et juste ces années, justement, d'école de commerce, en fait, donc vous étudiez quoi, de la finance, de la compta,
la finance, du management, market. J'essaye de trouver un peu du sens, donc je fais... Enfin, du sens, il peut y en avoir beaucoup, sauf que moi, la finance, c'était pas pour moi. J'étais assez bon, hein, par ailleurs.
Vous étiez espoir de l'année.
Ouais, j'étais élu espoir de l'année par les gens de ma promo.
Et vous en gardez quoi de ces années-là ? Parce que je lisais, ça c'était assez intéressant, que ça vous a donné, ou vous aviez déjà peut-être, un sens du concret, enfin quelque chose...
Non, ça me l'a donné, parce que moi j'étais très lyrique, je pense. Et là, il y a un moment où du coup, quand je fais des rôles, en fait, j'ai pas des représentations toutes faites sur qu'est-ce que c'est que de... J'étais président d'une asso humanitaire, donc je faisais beaucoup de... Je travaillais plus là-dedans.
EDEC, c'est ça ? L'association, ça consistait en quoi, du coup ? Aider des initiatives
On était une quarantaine et on faisait beaucoup de soutien scolaire. On organisait des vacances, mais il y avait plein de projets. Il y avait aussi des projets... Il y avait une construction à Madagascar d'une maternité, puis d'un foyer socioculturel.
Mais vous vous sentiez à l'aise, vous, dans cet univers, cet environnement ?
J'étais espoir de l'année, quoi.
Donc, franchement... hyper sociable, vous, alors ?
Aimer Oui, carrément, ouais.
Pour Antoine Reinhardt, le déclic s'opère alors qu'il a tout juste 21 ans. Il vit et travaille à Nice et découvre au cinéma les chansons d'amour de Christophe Honoré, magnifiquement mis en musique par Alex Baupin. Et il est, dit-il, hyper vénère que le réalisateur n'ait pas pensé à lui, qui n'a pas passé le casting, pour le rôle de Grégoire le Prince Riguet.
J'étais hyper vénère de pas... Il y a deux rôles que j'étais vénère de ne pas avoir dans ma vie. Il y avait celui-ci et Cédric Diggory dans Harry Potter 3, où j'étais trop vénère. Bon, Cédric Diggory, je comprends qu'il n'ait pas pensé à moi et plutôt au mec de Twilight, qui avait un peu plus de poids.
Donc, c'est les chansons d'amour de Christophe Honoré. Ouais. Vous êtes en colère de pas, qu'il n'ait pas pensé à vous.
Ce qui est un peu absurde en soi, puisque je veux dire, je fais de la finance à Nice, donc il y a un moment... Mais pourtant, le film aurait une autre gueule. Non, vraiment, j'adore ce film.
Vous, c'était le rôle de Grégoire le Prince Riguet que vous vouliez ?
Ouais, je pense. Ouais.
Et donc, du coup, ça fait un déclic, ce film ? Enfin,
il y a un truc où je me dis, il y a quand même un problème. Parce que moi, je continuais à dire que je voulais être acteur à tout le monde. Donc, tout le monde le savait, ce qui était absurde. Mais... Donc, il y a un moment, j'ai ce sentiment d'amertume sur la promenade des Anglais à Nice, en marchant, qui est en fait une 2x4 voies, qui est quand même presque une autoroute. Et je me dis, il y a un bug quand même de... Il y a déjà un gap énorme dans tous mes discours qui est évident, mais bon, ça, j'en prends pas conscience. Et il y a ce sentiment d'amertume où je me dis, c'est pas normal d'être... Donc, faut quand même que je le tente. Et puis, je savais, quelque part dans ma tête, qu'il y avait une limite d'âge dans les entrées au concours, parce que j'avais regardé toutes les écoles pendant toute mon enfance sur... et la FEMIS, et le conservatoire, et le TNS, et l'ENSAT. Donc, je connaissais toutes les âges, tous les...
Donc, bon, alors finalement, hop, vous quittez votre...
Bon, je finis.
Vous finissez et ensuite vous dites, le théâtre.
Un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que j'avais des potes très sympas sur la dernière année qui ont fait tous les devoirs collectifs avec moi. Et moi, je vivais à Paris et j'allais une journée et demie sur place. Et je reprends le théâtre.
Le studio d'Anières, la manufacture de Lausanne et puis finalement le conservatoire de Paris. Le conservatoire, ça va vous apprendre quoi justement dans votre formation, dans votre rapport au texte, à l'auteur ? Qu'est-ce que ça vous apprend ?
Moi, j'étais... on était une promo assez âgée, donc assez impatiente. Et du coup, plus du tout... moi, il y avait beaucoup de choses où j'étais en rejet. J'ai en rejet d'une certaine théâtralité qui m'agaçait. Par exemple, faire du masque, moi, c'était pas du tout mon truc. Je trouvais ça très dogmatique. Tout ce qui était dogmatique, en fait, me rendait très en colère. Et ça veut pas dire que genre, j'ai adoré bosser des trucs de Molière en alexandrin. Ça peut être super, mais pas avec des règles...
Et ça, c'était entendu
Nous, on a une promo assez on a demandé un non-renouvellement du directeur à l'époque, qui avait fait beaucoup de bruit. Je pense que les choses étaient grises, il y avait des torts des deux côtés. Mais on a contribué aussi à ce que l'école s'ouvre un peu plus, à une époque où elle était assez refermée. Mais surtout, moi, on avait une promo de dingue, et donc j'avais des gens dans ma promo qui étaient démentes, surtout des actrices. Et on se mettait en scène les uns les autres, donc il y a eu des profs, des rencontres avec quelques profs, quelques maîtres... que j'adore encore aujourd'hui, notamment de danse et de chant. Et surtout, les gens de ma promo avec qui on a monté des projets et qui sont presque eux qui m'ont le plus appris en termes de jeu et de...
Vous rêviez de cinéma, toujours, quand vous étiez au conservatoire ?
Et c'était difficile aussi, parce que c'est un milieu qui est encore plus difficile d'accès, le cinéma. Donc, on avait des partenariats avec la FEMIS. Moi, j'étais très, très pushy, et dans les rencontres, et dans mes projets. J'ai fait un court-métrage à ce moment-là avec des gens de la FEMIS. Enfin, il y avait un truc que je poussais très, très fort... pour aller vers cet endroit.
Ouais. Et puis alors, après, il va y avoir un long casting qui va durer plusieurs mois, je crois 8-9 mois.
Ouais, 8-9 mois.
Mais
ouais.
Le casting est très essentiel dans la réussite de ce film et dans la nature même de ce film, parce qu'il consiste aussi à mettre en présence des corps hétérogènes, des expériences hétérogènes. Ça fait partie du film vraiment. Et c'est votre premier grand rôle. Vous allez obtenir un César, donc du meilleur acteur dans le second rôle pour ce film. C'est 120 battements par minute de Romain Campillo. Vous jouiez Thibault, qui est donc le président d'Act Up Paris, qui est mon avatar de Didier Lestrade, inspiré. Vous disiez qu'à l'occasion de ce rôle, ça vous avait beaucoup fait vous remettre en question sur la radicalité, sur la désobéissance.
Ouais, c'est marrant, j'ai encore de nouveau évolué, mais parce que c'était aussi une idée de... C'est des droits qu'on arrache, et s'ils ne les arrachent pas, je pense toujours à la bœuf, quoi. Enfin, où je me dis, mais comment ça se fait qu'en 97, on était quasiment sûr que ça allait être légalisé ou dépénalisé? Et en fait, 25 ans après, il y a des moments où si on n'arrache pas des droits, on passe à côté d'un moment de l'histoire. Et donc, oui, il y avait une éloge de la radicalité. Après, ce qui est compliqué, c'est que je pense ça a impacté aussi à d'autres endroits aujourd'hui sur une idée de radicalité. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même une période où il y avait un déni total de ce qui existait. Contrairement à aujourd'hui des radicalités, alors que le gouvernement met en avant cette chose, même s'ils font pas forcément grand chose, mais où en fait on ne parle que de ça. Là, c'était un endroit où la nécessité de parler, de faire des coups de com était, parce qu'il y avait vraiment un déni, on n'en parlait pas, quoi. Les gens mouraient sans qu'on en parle.
Bien sûr.
À l'époque, ça m'interrogeait sur la radicalité. Après, on vivait pas dans la même période.
Parce que c'était aussi très différent de ce que vous aviez vécu vous dans l'associatif, ouais. Et tout ça. C'était quelque chose de, comme vous dites, il y avait une nécessité, il y avait un. Enfin, Act Up a eu, c'était nécessaire d'aller
ouais,
dans
ouais.
cette radicalité-là.
Après, qui a été en opposition avec AIDS, qui a été ouais. questionné à l'époque, mais effectivement, ils ont obtenu des droits que encore aujourd'hui, toutes les personnes séropositives en bénéficient. Enfin, ils ont été, ils ont été hyper forts. Mais
ça a été très marquant.
Pas faire l'éloge de la radicalité, j'abuse.
Non, je dis pas l'éloge, je dis questionner justement.
Non,
c'est
mais ça questionne effectivement. Et,
oui.
c'est Pierre Bergel qui lui-même faisait l'éloge de cette radicalité à l'époque. Donc c'est quand même assez bluffant, ouais.
C'était très marquant, ce premier rôle,
Oui, énorme, et en même temps, ça arrivait... Il y a quand même quelque chose qui était l'aboutissement de... C'est-à-dire que j'avais fait un court-métrage donc, sur une femme ouais. séropositive à San Francisco. En fait, c'est un peu un hasard. J'avais fait beaucoup d'associatifs, pas du tout dans le milieu ni séropo, ni LGBT, mais beaucoup plus dans un truc QI, mais plus dans d'autres associatifs, mais... Du coup, et j'avais un sentiment de... J'étais très marqué toute mon enfance pour des raisons obscures. On ne sait pas pourquoi on a plus ou moins un héritage, mais sur tous ces mecs de 20 ans qui avaient des rêves et qui ont vu leurs rêves complètement balayés. Ces reportages d'envoyé spécial où on voyait ces mecs qui rêvaient d'être danseurs et qui en fait marchaient plus, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais en fait, du coup, c'est un aboutissement qui trouve des échos et des résonances dans la vie que je...
C'est pas des hasards non plus, chez un acteur, c'est-à-dire que le parcours, la vie, transpire, c'est aussi ça qui va permettre au directeur de casting de projeter sur vous,
il y a
un lien.
Et en même temps, c'est un hasard dans le sens où c'est un hasard que ce rôle-là arrive à ce moment-là, au moment où moi, je sors du conservatoire et 3 ans plus tard, ce serait plus l'âge.
Ce film est remporté un grand prix du jury à Cannes. Il y a Pedro Almodovar, qui est très ému par le film, d'ailleurs, qui est en larmes.
Almodovar,
il y a Agnès
passion
Jaoui
absolue.
Aussi. Oui, ouais. C'est ça. Almodovar, j'allais vous demander si c'était quelqu'un qui avait été important pour vous.
Oui, la loi du désir. Enfin, rares sont les réals qui ont fait plusieurs chefs-d'œuvre. Après, il arrive à faire quelques bouses au passage. Mais tout son triptyque, la loi du désir, la mauvaise éducation et douleur et gloire, je trouve ça vraiment...
Douleur et gloire, c'est très bon et c'est récent.
Ouais. Et la mauvaise éducation, c'est ouf. Enfin, vraiment, je l'ai revu, c'est démentiel. Comme c'est hyper esthétisant, mais en même temps, en chair et en os. Et ce qui est fou, c'est que c'est 8 mois d'accompagnement du film. En fait, Arnaud, il accompagne, il fait tout ce qui est, comme il avait fait de la mode, il fait aussi tous les magazines très mode, tous les événements, etc. Nahuel, il fait pas mal d'international parce qu'il vient d'Argentine. Et moi, du coup, on m'envoie à tous les trucs scientifiques. Et du coup, c'était passionnant. Enfin, il y a vraiment un truc qu'on m'a envoyé en Guadeloupe pour... aller parler aussi avec la personne qui s'occupait des maladies, notamment de toutes les personnes séropositives au CHU de Guadeloupe, pour rencontrer toutes les associations, les jeunes, les gens qui étaient dans les formations. Enfin, du coup, il y a quelque chose où... Oui, c'est une vraie partie de vie intense, un vrai moment d'engagement au-delà de juste parler d'un film, quoi.
Oui, mais en plus, c'est marquant. Et puis, ce qui est amusant aussi, là, si on détaille un peu votre goût, c'est ce film, il était coproduit à l'époque par Marie-Ange Luciani, qui coproduit aussi aujourd'hui Anatomie d'une chute. Et vous avez beaucoup joué dans des films qu'elle a produits, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est rigolo. Dans, on parle souvent réalisateur-acteur, mais vous, il y a ce lien avec cette productrice aussi. Ouais, enfin, il est important dans votre parcours
ou... Bah, il est essentiel. Sans elle, j'ai rien. Même là, en ce moment, elle me dit ah, bon, elle n'y arrive pas, elle essaie de me remettre sur un projet, après, ça ne marche pas. Mais, parce que les réals ont quand même encore leur mot à dire. Mais, bon, en France. Anatomie, c'est pareil, ils voulaient une femme pour le rôle, pour pas que ce soit trop misogyne. Bon, bah, finalement, non. Ça, les, du coup, c'est moi. Mais je crois que Marie-Ange a beaucoup œuvré pour que.
Oui, pour dire,
essayer de le voir, franchement.
Ouais. Ça... Juste avant qu'on parle d'anatomie, il y avait un autre film, il y en a plusieurs, mais un qui m'intéressait dans votre parcours aussi, par rapport à votre goût, parce que je pense que ça va aussi encore un peu ailleurs. C'est dans Roubaix. Vous jouez dans Roubaix, mmh. Ville-Lumière de Desplechin. Il écrit d'ailleurs le rôle pour vous, je crois. Mmh. Desplechin, c'est un cinéaste qui correspond à votre goût. Enfin, vous aimez Desplechin.
Ouais, en fait, c'est. C'est Samuel Taïs qui dit ça sur la... Je pense que j'ai eu toute une partie de ma vie où j'étais aussi un peu en rejet de... En tout cas, en fascination totale pour une culture très street. Donc, tout ce qui est street dance, un truc de... Et en fait, je me réapproprie une culture bourgeoise aujourd'hui que je valorise quand même vachement. Enfin, je trouve qu'on l'a... C'est Samuel Taïs qui parle de ça, d'une espèce de double fascination du milieu dans lequel il vient pour une culture beaucoup plus bourgeoise, etc. Et du milieu bourgeois pour une culture hyper street qu'on... ouais, une espèce de double fascination comme ça où on a honte de nous et on survalorise le milieu en face.
Et du Desplechin, ça représentait la culture bourgeoise pour vous
enfin, peut-être plus, enfin, mm-hmm. en tout cas, ce qui était sublime, parce qu'en plus c'était un film sur Roubaix, sur une ville très populaire, ouais. etc. Et ce qui était très dur pour moi, c'est que c'était dur de s'affirmer en face de choses très puissantes. C'est-à-dire qu'il avait fait un casting sur toute la première partie du tournage. Il avait fait un casting avec que des gens qui amenaient une réalité très très forte, parfois des non-pros, parfois des pros, mais tous très très différents, qui montraient un Roubaix. Et donc c'est hyper dur de pas juste être spectateur. Or, si t'es spectateur, quand tu joues, bah, c'est vide. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai eu du mal, moi, à m'affirmer en face tellement j'étais subjugué, aplati par cette vérité en face. Et ensuite sont arrivées les deux filles, Léa Seydoux et Sarah Forestier, qui étaient assez démentes. Léa Seydoux d'une immense générosité, hyper forte. Et là aussi, c'était dur de ne pas être juste... bon, après, j'étais dans une période compliquée, mais j'ai l'impression que je parle que de période compliquée, ça va très bien, la vie est sublime, franchement. Mais du coup, j'avais du mal à m'affirmer en face de ça.
Mais en même temps, c'était votre rôle aussi, vous étiez ce jeune lieutenant qui a du mal à rentrer dans l'affaire, qui a du mal à s'affirmer, enfin, Charles Rolls-Dizem, qui est le commandant.
Qui voit tout, qui sait tout.
Voilà. Ce qui est drôle quand on regarde votre parcours, c'est que souvent, on vous identifie beaucoup dans des rôles, alors effectivement, qui ont à voir avec le langage. Enfin, vous incarnez beaucoup la fonction, vous incarnez des policiers, vous incarnez des avocats, vous incarnez...
Les
profs, exactement.
Les avocats, on a
Samuel
proposé
Théis.
Quatre avocats en même temps.
Oui, parce que j'avais joué l'avocat dans le Tapie, Bernard Tapie en même temps.
J'en ai quand même refusé deux sur
mais
quatre.
Alors, c'est drôle qu'on vous voit beaucoup dans l'incarnation. Il y a un rapport à la loi dans votre personnage, toujours, quel qu'il soit, en fait, et dans le langage, quoi. Enfin, il y a une habileté langagière et une fonction.
Oui, très forte. Après, il y a toujours cette peur d'être catégorisé. Moi, je trouve déjà, si on arrive à avoir une bonne catégorie à la gérer, c'est cool. Et après, on écarte les murs, quoi. Donc, il y a des endroits où moi, j'essaye d'aller avec plus sur le couple, sur le... je suis encore loin du jeune premier. De toute façon, je ne le serai pas. Donc, il y a un truc où... Il y a des endroits où on essaye d'ouvrir, mais déjà bien appréhender ces endroits-là. C'était Kevin Spacey qui était vraiment là-dedans beaucoup. Enfin, beaucoup sur des fonctions, beaucoup sur des connards. Enfin...
Et c'est intéressant à jouer la fonction ?
Bah, moi, ça me passe. Moi, c'est ma vie. Après, il y a aussi un truc d'écho avec... J'ai longtemps été... hyper geek du travail, de la connaissance. J'aime ça. Et c'est aussi qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très très forts à plein d'autres endroits où moi je suis parfois moins bon, sur le sentiment, sur la séduction, et qui par contre ne s'approprient pas facilement des choses techniques.
Alors justement, alors le procureur, le sexy lawyer, comme disaient les Américains maintenant, de Anatomie d'une chute. Alors ce personnage-là, comment vous l'abordez ? Donc au départ, effectivement, c'est une femme qui est prévue pour le rôle, je crois. Enfin, Justine Triet avait pensé à une femme et pas connue.
Oui.
Ouais. Et finalement, bon, Marie-Ange intervient.
Alors je sais pas, elle se donne tout le truc, elles me disent toutes, on voulait vraiment le voir et je sais jamais qui voulait pas. elle voulait tout au final.
Comment vous l'avez abordé ce rôle-là ? Pour le jouer, déjà, vous vous êtes dit qu'elle était coupable ? Vous vous êtes dit qu'elle était...
Oui, bien sûr. Oui. Déjà, moi, j'ai reçu la scène où, la scène de dispute, quoi, et la scène du procès juste après la scène de dispute. Donc, vu que c'est la première scène que je reçois, il y a quand même une grande, grande ambivalence dans cette scène. Pour moi, c'était évident qu'elle était coupable. Et je représente toute cette chaîne de la justice et de la police qui a fait son travail, qui estime qu'un procès est légitime. Donc, soit je balance leur truc, mais je pouvais pas être aussi pernicieux si j'étais pas convaincu, sinon je suis un gros connard. Et en vrai, je le suis pas. Et donc oui, le sexy lawyer, c'est pas moi. Pour les Américains, le sexy lawyer, c'est Swan, avec sa petite mèche grise.
Ah, c'est pas vous ?
Non, c'est pas moi du tout. Ils ont créé des bougies avec l'odeur du sexy lawyer, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, je suis le mean guy. Enfin, vraiment, je suis le méchant. Franchement, sexy lawyer, j'ai quand même 15 kilos de plus que dans les 120 battements, mais et plus de cheveux.
Mais d'ailleurs, ben là, vous revenez des États-Unis, mais c'est drôle parce que ce film, il a des perceptions très différentes selon les pays dans lesquels vous l'avez présenté, en fait.
Ouais, après, moi, ce que je trouve vraiment beau dans ce que ça a créé, c'est vraiment un moment où personne ne sait, justement, dans cette société qui est la nôtre, qui est aujourd'hui très, très polarisée, où c'est très, très dur de se parler, c'est vraiment créer un espace où on est tous dans un inconnu de « on ne sait pas du tout où on va, on n'a aucun préjugé sur la culpabilité ou non, on avance, on est complètement dans le doute, on accepte des vérités plurielles et des ressentis différents, et on accepte aussi que la réalité n'est peut-être pas possible, c'est peut-être impossible qu'on l'appréhende. Et pour autant, on prend une décision qui nous apaise dans tout ça et qui nous apaise tous, quelle que soit notre conviction sur la culpabilité ou non. » Et ça, je trouve ça... et je l'ai dit une fois, mais en fait, moi, j'avais été vachement marqué par Primo Levi qui disait qu'il fallait qu'on fasse hyper attention aux grandes vérités révélées et qu'il fallait parfois qu'on accepte que la vérité était un peu médiocre, un peu moyenne et qu'on avance vraiment petit à petit. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment réjoui dans ce moment, c'est ce truc de... on arrive à créer un endroit où on est tous dans le doute ensemble et où on arrive à prendre une décision apaisée malgré tout, quoi. Donc même s'il y a des ressentis, effectivement, il y a des gens très très convaincus de sa culpabilité ou de son innocence. Il y a aussi un truc, mais ça, je suis dans la défense de mon rôle et c'est pour ça qu'on évolue beaucoup. C'est-à-dire qu'entre la radicalité de 120 battements et là, c'est l'intelligence de ce film, c'est d'inverser les rôles. Si c'est un homme qui est accusé et une femme qui est tuée et qu'on a exactement les mêmes, alors évidemment, 80% des féminicides ce sont des femmes, hein, mais je veux dire, on a un préjugé très très fort genré et on ne juge pas du tout juste sur les éléments parce que toutes les personnes qui sont convaincues de son innocence, si c'est un homme, sont les mêmes personnes qui sont convaincues de sa culpabilité. Alors que les preuves sont les mêmes, etc. Donc on a... je trouvais ça passionnant de s'interroger sur cet endroit de... sur nos préjugés, sur nos endroits de doute et d'être dans un endroit de justice où... on n'est que dans le singulier pur, quoi. Que dans l'histoire singulière pure. Parce que je trouve toujours que plus on est dans le singulier, même dans tout ce qui nous traverse aujourd'hui, des grands mouvements, et moi, de tout ce qui m'a, par exemple, dans MeToo, dans tout ce qui m'a bouleversé, c'est des grands récits singuliers. J'ai l'impression que plus on est singulier, plus on est universel. Il y a des films, par exemple, c'est abusé, je vais commencer à bitcher, mais il y a des films comme... j'adore Xavier Dolan, mais il a fait son adaptation de La Garce, où il a essayé de créer un espèce de monde... hors temps, où il y a quand même des téléphones portables, c'est pas vraiment le sida, c'est la maladie. Mais en fait, pour moi, ça n'a plus de sens. Il y a un truc où elle peut pas deviner qu'il est malade si c'est pas le sida, si c'est pas les années 80. La lettre une fois par semaine, c'est parce que ces années 80, il n'y a pas de téléphone portable. Sinon, on s'appelle et sinon, il n'y a pas les mêmes rapports de distance. Et plus on est dans le singulier, pour moi, plus nous, après, moi, je lis Springora, en fait, c'est tellement singulier et tellement précis que je comprends tout et que ça devient... un paradigme, ça devient un modèle qui m'aide à comprendre plein d'autres situations, mais que je ne plaquerai pas, voilà.
Pour mieux comprendre son goût d'acteur, justement, et ce qui l'émeut chez les autres, j'avais demandé à Antoine Reinhardt de choisir une scène de cinéma. Il a choisi une scène extraite du Parrain 2 de Francis Ford Coppola. C'est une scène dans laquelle Diane Keaton explique à son mari, Al Pacino, qu'elle n'a pas fait une fausse couche comme il le croit, mais qu'elle a délibérément décidé d'avorter pour ne pas perpétuer la lignée criminelle.
En fait, il y a un truc dans cette scène qui est à la fois pas complètement réussi, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment un monologue, puis un autre monologue, puis une grosse claque. Donc, on sent que quand elle fait « Oh !» il y a un truc où on se dit « Ah oui, d'accord, on n'a pas du tout entendu de son, aucune réaction d'elle, il y a quelque chose qui est un peu écrit, et en même temps, ils sont tellement déments. » Moi, dans mes goûts, il y a l'idée d'être toujours au plus près du réel, d'être toujours plus près de la réalité. Donc j'ai horreur des moments de monologue face cam où je dis la vérité et tout. Un truc didactique, ça me... Je préfère que ce soit pas didactique, quoi. Et que ce soit vrai. Parce que les gens qui sont comme ça dans la vie me fatiguent. Là, il y a quelque chose qui est un peu raté dans le réel parce que on sent que c'est monologue puis monologue, mais ils sont tellement forts qu'ils respirent tout, ils arrivent à tout. Et moi, c'est là où j'ai compris que Diane Keaton était génial. Et après, du coup, j'ai vu Simple Secret, qui est un film que personne ne connaît, qui est un peu un film un peu protestant-catho, je pense, pour eux, un truc sur c'est bien de rester près de ses parents plutôt que d'aller à la ville trouver sa liberté. Il y a quand même Meryl Streep, Diane Keaton, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans le film. Et pareil, Diane Keaton, elle est... franchement, en fait, elle est bouleversante d'amour, mais de générosité et de... on sent qu'elle dit un truc dans le film à un moment, elle dit, mais... En fait, je suis déçu pour toi, pas que tu sois pas capable d'aimer, en fait. Être capable, non pas d'être aimé, mais être capable d'amour. Et c'est hyper, hyper religieux, un peu. Enfin, et en même temps, elle est bouleversante, quoi. Et ça va avec tout ce cinéma des années 70, 80, 90, qui était pourtant un cinéma ultra populaire, quoi. Et je trouve qu'en termes de texte, en termes de jeu, j'avais fait des stages aussi à la Fémis où on avait travaillé sur des scènes de Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Bah franchement, c'est dément. Enfin, je veux dire, c'est écrit, on fait les scènes. Alors, il n'y avait pas Whitney ni Kevin Costner, mais ça marche. C'est extrêmement bien écrit, quoi.
Le goût de M.
Alors, vous avez amené un autre objet aussi, ouais, qui est important, qui nous amène plus après vers votre adolescence, mais c'est un livre. Ah, même plusieurs, hein, plein.
Il y a plusieurs tomes.
Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est, Antoine?
C'est les Chroniques de San Francisco. C'est pas du tout de la grande littérature, mais c'est hyper bien. Ça se lit quand même à 20 ans. C'est la libération sexuelle dans les années 70.
Oui, San Francisco, tout à fait.
Et
c'est une bande d'amis.
Une bande d'amis. En fait, c'est ce que Sex Education pourrait faire. Sauf que Sex Education, je trouve qu'il y a un truc hyper kiffant au départ, mais quand même très théorique. On met chaque catégorie de personnes les unes à côté des autres, mais ce monde n'existe pas. Lui, il raconte la vie de ses potes avec la femme qui les accueille, qui fume de la weed tous les soirs, sa pote lesbienne hyper riche qui fait des stages de tantrisme avec que des gens hyper riches américains, lui qui veut cultiver des plantes, son pote qui a aucune ambition mais qui se met avec une meuf qui veut faire des talk-shows. Enfin, il y a quelque chose de... Et la libération sexuelle, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup...
Ça vous a aidé?
Ça m'a construit.
Ouais.
Un peu, ouais.
Vous avez lu ça à quelle époque?
Vers 21 ans, j'étais en stage chez Total. Et c'était une ouverture sur le monde.
On n'est pas chez vous, Antoine, mais vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Le rapport aux objets, ça m'intéresse. Ils sont importants pour vous, les objets qu'il y a chez vous, autour de vous? Vous me disiez qu'ils étaient redevenus un peu importants.
Ouais, oui, je trouve que cette dématérialisation, elle me fait beaucoup de mal, en vrai. Bon, après, c'est la vie. Enfin, il y a une époque où je faisais des listes de tous les films que j'avais vus, de tout. Enfin, j'aime avoir les DVD, les livres, pour pouvoir m'y référer et me dire... ou même ne pas m'y référer, mais... Je veux dire, un appart vide avec juste l'ordi et son téléphone et toute sa mémoire dans son ordi. Il y a un truc où c'est le, je crois que c'est le pneuma, je crois que c'est chez Leibniz, etc. Cette espèce de puissance de soi-même, c'est pas ce, en fait, l'idée qu'on est plus ou moins grand, pas, c'est pas juste son enveloppe corporelle, c'est le sentiment de s'ouvrir ou pas. Et en fait, le fait d'avoir des objets, d'avoir un monde à soi, je trouve qu'on se sent un peu plus fort que une enveloppe juste toute petite et purement intellectualisé, purement dématérialisé, quoi.
Les vêtements, c'est important pour vous?
C'est chaud, parce que, en fait, j'ai longtemps été très, très contre. C'est-à-dire que j'avais, pendant très longtemps, j'étais en mode no style, et c'était affirmé.
Ah ouais?
Donc, je vois des photos de moi quand j'étais, j'avais 18 ans, 19 ans, je ressemble à rien, vraiment. Je suis chum, hein, vraiment, je fais aucun effort, parce que je trouve que c'était superficiel, et j'étais contre la superficialité, tout dans l'intellect. Et
vous avez changé?
Et j'ai changé, je suis devenu... Ouais, très, très superficiel. En fait, j'étais un peu trop dématérialisé, c'est trop dans l'idée.
J'allais vous demander justement, enfin, c'est une des questions, c'est est-ce qu'au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, vous me disiez...
Oui, énormément.
Beaucoup.
Oui. Bah, en fait, déjà, de s'ouvrir, ce que je veux dire, ça peut être très méprisant, mais de s'ouvrir à l'école de commerce et à la finance quand on est passionné par le théâtre et le ciné au départ, et qui n'était pas du tout mon endroit, ça force à faire un pas en soi et aussi à comprendre... Ouais, une sorte d'altérité. Je veux pas dire ça de manière surplombante, hein, du tout, parce que justement, je valorise tous ces endroits. Mais c'est aussi ça qui fait que je suis pétri de doutes et que j'ai peur d'avoir dit des trucs beaucoup trop péremptoires tout à l'heure. Mais ouais, j'étais contre les fringues. Du coup, maintenant, j'adore.
Vous aimez quoi ?
Non, mais c'est abusé parce que maintenant, je me fais habiller par des marques et j'adore. Alors que je suis contre l'idée de dépenser autant... Enfin, jamais je dépenserai cet argent-là. Non, c'est... Je trouve ça scandaleux, quelque part. Mais c'est un énorme kiff. Donc, c'est difficile.
Quel type de goût vous plaise ? Dites-moi, je sais que vous adorez le sucre. Dites-moi des trucs sensibles. Qu'est-ce que vous aimez ?
Ouais, moi, j'aime les dinosaures. J'aime les Lucky Charms. Je sais pas si vous voyez, c'est des Kellogg's qui ont été retirés du marché en France, qui s'achètent encore dans les épiceries anglaises, parce qu'il y a des chamallows dedans de 8 couleurs et tout. J'aime les Princes, c'est une bonne base. Le Nesquik. Hier, je me suis fait des Lutis. Je suis en plein régime, hein, mais j'ai pas réussi. Tout ce qui est les Fils, les Scooby-Doo avec ou sans sucre, plus ou moins acide. Mais c'est la vie, quoi. Ça vient aussi de mon passage en prépa et tout, où tout était calculé en termes de timing. Genre, j'avais 5 minutes pour une douche, etc. J'étais un peu... Et du coup, je déteste faire à manger. Je ne fais pas du tout à manger. Mais vraiment, je n'ai pas fait de pâtes depuis 3 ans. Enfin, vraiment, je ne fais 0, 0, 0.
Vous faites comment, du coup ?
Je mange tout chez Monop.
Ou, ah oui ?
Voilà. Et je refuse qu'on me fasse à manger, parce que je suis quand même un mec moderne. Je suis contre l'idée de... Donc je mange que des trucs tout faits. Mais par contre, en vrai, les rares fois où je vais manger chez ma mère et que là, j'accepte de me faire complètement... en mode patriarcat total, genre pieds sous la table, de la bonne soupe, du bœuf bourguignon. J'adore.
Vous avez des dégoûts, vous ?
Des dégoûts ?
Oui, il y a des choses qui vous dégoûtent dans la vie, où vous ne réfléchissez pas.
Les rats,
ça.
Mais...
Ouais, le rat.
Oui. Les endives.
Les endives.
Chaudes.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ?
Pareil, j'ai longtemps eu des potes, j'en avais rien à foutre, donc moi j'étais pas du tout sur l'apparence et j'ai eu des amis comme moi qui n'avaient pas trop de goût, qui étaient que dans le « on est drôle et c'est ça qui est important ». Et maintenant, bah...
Maintenant quoi ?
Non, mais je côtoie de plus en plus de gens de mon milieu qui sont très attentifs, et puis du milieu de la mode et du milieu de...
Oui.
Mais bon, j'ai des
plus petits... d'apparence, quoi. Plus de soucis de l'apparence.
Plus de soucis de l'apparence.
Ça veut pas dire...
Non, et puis j'ai été beaucoup... Il y a toute une période où j'étais fasciné par le voguing, donc qui est quand même un gros déni de ce que je suis, c'est-à-dire que je suis contre les fringues, contre l'apparence, et en fait, ce n'est que ça.
Vous attirez beaucoup, enfin, vous étiez très impliqué, hein, d'ailleurs, vous organisiez beaucoup, vous étiez dans le management d'une...
Ben, parce que, en fait, j'écrivais un film dessus, que je n'ai jamais terminé. C'était au moment où la scène voguing, la ballroom, naissait à Paris. C'était donc assez au début et je devais quand même justifier ma présence dans tous les... Donc j'étais un peu genre le manager d'une house où j'organisais quelques balls, je trouvais des salles, j'organisais les balls parce qu'il fallait quand même que je justifie ma présence. Et en même temps, je regardais tout, j'écrivais, j'étais vraiment fasciné. Déjà, il y a un truc sur la danse et donc je pense que la liberté du désir et autre que... Enfin, j'adore la danse.
Et une flamboyance aussi, ça vous plaît, ça, cette expression-là
Ouais. Des fulgurances. Et un truc très, très intuitif et très facile, c'est-à-dire que n'importe qui va dans un bowl de Vogue, c'est des jeux sur des mythologies contemporaines, enfin genre il y avait des bowls sur les pharaons, donc tout le monde s'habille en Ramsès, etc. Et en fait c'est drôle, enfin genre tout le monde a ses références, donc c'est des mythologies collectives et c'est hyper jouissif. Et en même temps, en débordant avec des mecs, il y avait des catégories où c'est en fait, tu dois faire très très straight, très très hétéro, et d'un coup tu danses comme une grosse tata, de manière très très féminine, tout ça déguisé en... ça a adapté à la catégorie et au thème du soir. Et j'étais assez bluffé par ces gens qui sont complètement hors institution, alors que moi, je suis très formé par les institutions et qui arrivent à recréer tout un système.
Vous avez eu du mal, vous, à oser ou pas ?
J'ai jamais osé, j'ai jamais dansé. Et puis, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour... Non, et puis j'avais d'autres endroits où j'ose, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de rôles, je m'habille n'importe comment tout le temps. Enfin, il y a un truc où j'ai cet endroit-là ailleurs.
Alors, ça serait quoi pour vous, Antoine Reinhardt, avoir du goût ?
C'est avoir du goût, c'est être au plus près du réel et accepter cette multitude du réel, cette myriade de réels possibles.
Merci, Antonin. Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Le goût de M marque une petite pause. On se retrouve dans 15 jours, le 26 avril, avec un autre invité, un autre goût.